Vous écoutez RTL.
RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h17 sur RTL, lors de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre, on refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Avec l'éditorialiste au Figaro Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Avec le directeur de la rédaction de Marianne. Bonsoir Joseph Massescaron.
Bonsoir.
Et avec Olivier Mazerolle qui est là tous les lundis matins sur RTL et tous les lundis soirs pour notre plus grand plaisir. Bonsoir Olivier. La Méditerranée, donc ce cimetière, de nouveaux navires sont actuellement en perdition sur l'un de 300 passagers. Dimanche, 950 personnes auraient disparu en mer selon un témoin cité par le procureur de Catane. Jeudi, un sommet extraordinaire entre les partenaires européens est prévu à Bruxelles. Laurent Fabius veut s'en prendre aux passeurs. Et vous, comment faire pour éviter que l'histoire ne se répète encore et toujours? Quelle position doit prendre l'Europe sur les réseaux sociaux? Benoît Gadret, bonsoir.
Bonsoir, on observe déjà une prise de conscience après l'indifférence de ces derniers. Semaine. Effrayant, combien de morts pour finir avec ce génocide? Où sont les politiques élus sans s'éveiller sur nos vies? S'écrit par exemple Willis. Antoine hausse encore les épaules. Ce sont les risques, il fallait pas essayer, ça leur a coûté la vie, écrit-il. Mais Kevin lui rétorque, quand ton pays est en zone de guerre civile, tu réfléchis pas. Et tout ça grâce à qui? À nous. Mais fade approuvé, on fait la guerre dans ces pays et on se casse après sans aucun suivi, faut pas s'étonner. L'Europe doit aider les pays des immigrants à mettre en place de vraies situations sociales car ils ne cherchent que ceux là en venant à suroser. Adrien préférerait empêcher les bateaux de partir des côtes libyennes avant que les passagers clandestins n'y montent. Agnard ne voit que trois solutions. Leur apprendre à nager, leur faire aimer leur pays en guerre civile, ou enfin refonder une ONU à l'écoute des peuples, grince-t-il. Oui, parce que pour l'instant, s'ils se noient, on a l'impression que c'est la faute à l'eau de la Méditerranée, soupire Felipe. Franck lui veut qu'on traque les passeurs. Quant aux migrants, les sauver bien sûr, mais après les ramener d'où ils sont partis, on n'arrive déjà pas à nourrir les nôtres, assure-t-il. Sur son blog, Noël Mamère titre « Non assistance à migrants en danger ou crime contre l'humanité, ces tragédies humaines ne sont que la conséquence de l'obsession sécuritaire de l'Europe qui a accouché de politiques migratoires rendant quasi impossible aux migrants l'accès régulier au territoire européen », écrit-il pour finir.
Joseph Massescaron, jeudi donc, les chefs d'État des 28 donc, se réunissent à Bruxelles. Vous attendez quoi d'eux?
Ce que j'attends, c'était d'abord qu'ils écoutent et qu'ils réagissent à disons, il y a la tragédie, on va parler de la tragédie, du drame. C'est un drame spectaculaire, mais qui provient, il faut quand même le dire, qui est après une succession de drames. C'est-à-dire qu'une fois 200, une fois 300, une fois. Donc il a fallu atteindre un chiffre, apparemment, qui a réveillé l'opinion publique, parce que là, pour l'instant, il y a déjà eu des milliers de morts.
Absolument.
En Méditerranée. Bon. Ceci étant dit, j'espère qu'ils entendront l'appel au secours, qui est l'appel au secours d'abord du gouvernement italien et de Matteo Renzi.
Ils ont donné moins de moyens donc, pour pouvoir affronter cette tragédie.
Je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'avant, il y avait un organisme qui s'appelait Mare Nostrum, cet organisme donc, qui était chargé de faire face au flux des migrants et qui devait aider l'Italie en conséquence, a été remplacé par le terme, alors là pour le coup, quel humour cruel, Triton, parce que le Triton est un animal amphibien. Malheureusement, les migrants, ils ne sont pas eux amphibiens. Donc c'est ce plan, qui est cette mission Triton, qui prévoit d'ailleurs, prévoit une sorte d'accueil, mais qui ne prévoit pas ensuite qu'est-ce qui se passe, ça on n'en sait rien. Aujourd'hui, juste pour que les gens le sachent, aujourd'hui, en Italie, j'ai encore une autre correspondante juste avant à Rome, elle est mais en explosion politique sur cette question. Vous avez des gouverneurs de province qui disent, nous, c'est terminé.
Donc donner des moyens à l'Italie, c'est ce que vous nous dites
ça.
Ce soir.
La
première chose, voilà. C'est ça.
Bien sûr, parce que l'île, par exemple, l'île de Lampedusa, qui est maintenant un cimetière à ciel ouvert, hein, c'est complètement fou. Ils essayent, en tout cas cette île essaye de rediriger ces migrants vers la péninsule, et ils n'y arrivent pas, puisque les gouverneurs de provinces italiennes, un certain nombre, disent maintenant, non, stop, on ne veut plus les recevoir.
Donc des moyens pour l'Italie.
C'est pas simplement le point.
Non, mais c'est le premier point.
J'imagine qu'on va parler, comme l'a dit un des intervenants, on va bien sûr parler de la vraie question, parce que c'est la deuxième question qui est portée par Matteo Renzi, qui est la question de la Libye.
Alors, on y vient. Après, déjà des moyens, Yvan Rioufol, donner des moyens à l'Italie pour qu'elle ne soit pas seule pour affronter la tragédie.
Dans l'immédiat, assurément. Il n'y a pas d'autre choix pour l'instant que de sauver ce qui se noie sous nos yeux. Mais simplement, il faudrait faire attention à ces discours un peu convenus et faciles, tels que celui que j'ai entendu de Noël Mamère, ou ce matin de Kouchner, disant que l'Europe était coupable de non-assistance à personne en danger. Parce que cette compassion-là ne mène plus à rien. Il va falloir aujourd'hui se rendre compte qu'il y a 1 million, d'après les chiffres qui sont donnés, 1 million de migrants qui sont prêts à passer, à franchir la Méditerranée pour débarquer en Italie, puis en Europe, chassés non pas par les mouvements politiques, mais par la crise économique. En plus, ce sont des gens qui ne pourront pas bénéficier, en grande majorité, de l'asile politique. Donc il faut vraiment s'interroger de savoir comment il faut aujourd'hui protéger l'Europe de ce flux migratoire colossal, d'autant que l'on apprend également, et c'est encore le plus grave, que l'État islamique, Daesh, est parmi les puissances qui instrumentalisent cette misère humaine pour tenter de déstabiliser l'Europe. Daesh l'a revendiqué il y a 3 mois en disant « si vous continuez à nous emmerder, pardon ». On peut vous envoyer 700 000 migrants sur des petits rafiots. Et c'est ce qui commence à se faire. Vous avez entendu hier François Hollande évoquer d'une manière un peu brumeuse le terme de terrorisme, ouais. Mmh. Qui avait été repris également par Harlem Désir la veille sur Europe 1, expliquant davantage que les terroristes étaient ceux qui organisaient et finançaient ces traversées-là. Donc il y a un jeu terroriste sur lequel il ne faudrait pas tomber en disant qu'il faut naturellement accueillir toute cette misère du monde. Pardon, toute cette misère. Donc il faut que l'Europe se protège de ceci. Et elle s'en protège naturellement, d'abord en cessant de vouloir être l'Eldorado. C'est criminel, j'ai entendu encore avant de venir, que l'ONU demandait à l'Europe d'accueillir tous ces pauvres. Donc de les faire encore tenter de traverser dans les conditions que l'on sait, c'est tout à fait criminel. Je pense qu'il faut empêcher les départs si l'on peut, reconduire au port si l'on peut, mais il y avait une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné l'Italie qui avait reconduit à des ports de départ en Libye il y a 2 ou 3 ans, donc il faut revoir cette législation. Et puis il faut peut-être suivre surtout l'exemple australien qui a assez peu d'état d'âme en effet et qui interdit à quiconque, à quel bateau clandestin que ce soit, d'arriver jusqu'aux côtes, et donc il les renvoie, il ne les coule pas naturellement, mais il les renvoie de là où ils viennent.
Moi, quand je vois ce drame, je pense toujours à la chanson de Le Forestier, être né quelque part. Et je me dis qu'on a de la chance, nous, d'être nés là où nous sommes nés. Et cette chance, est-ce qu'il faut la partager ou pas? C'est le point. Il y a un curseur qui se déplace entre non, pas du tout, et oui, tout à fait. Et après, c'est suivant son degré, je dirais, de quoi? D'humanité, suivant son opinion politique. Comment on fait pour déplacer ce curseur? Là, il y a urgence. Donc, effectivement, il faut aider. C'est pas avec les 25 millions d'euros qui ont été donnés l'année dernière par l'Union européenne, ça, c'est peanuts, qu'on va se consacrer au droit d'asile et à la migration, qu'on peut aider ces gens-là. Donc il faut certainement, effectivement, accroître l'enveloppe financière. Mais ça, c'est du court terme. Et le long terme, c'est probablement de les aider à développer leurs économies sur place, en créant, pourquoi pas, comme le disait d'ailleurs Peter Sutherland de l'ONU, chargé de l'immigration, développer un marché commun méditerranéen. Il faut leur donner la possibilité de rester là où ils sont.
Ça, c'est pas pour demain, c'est peut-être pour après-demain, mais c'est pas pour demain.
On ne peut pas mettre un sparadrap sur une...
Mais là, on est dans les mesures d'urgence.
C'est du court terme. Il faut aussi avoir une politique à long terme.
Non, ça fait 40 ans qu'on en parle.
Et alors, c'est pas une raison pour ne pas la mettre en œuvre, cette politique. Il faut la décider. Par ailleurs, on ne peut pas faire comme vous seriez peut-être tenté de le faire. Agiter le drapeau. Mon Dieu, les étrangers, regardez, l'Afrique déverse toute sa population sur notre Europe qui est déjà en train de couler. On n'a pas. Stop. Attention, les votes populistes vont gonfler. Et il faut mettre des chiffres en face de ça.
Entre 2008 et 2014,
les chiffres sont là. Il y a eu 70 000, entre 70 000, suivant les années, 70 000 et 150 000 personnes qui ont été prises aux frontières. Ce n'est pas non plus des millions de personnes. C'est beaucoup, certes. Et il faut mettre en œuvre une politique, je le disais à la seconde. Mais c'est pas non plus. Il faut pas agiter l'épouvante.
Non, mais en 15 jours, il y a 13 500 personnes exactement qui ont débarqué en Italie dans la péninsule.
Mais
13 500 personnes, il faut arriver à les loger. Et parmi ces 13 500 personnes, Daesh elle-même dit, puisqu'il y a eu tout un discours de Daesh, Yvan a raison, en disant « Nous ferons tomber l'Italie en 2020 », je cite dans le texte, n'est-ce pas,
vrai.
Ils veulent infiltrer des terroristes au sein justement de ces...
Non, ils disent « Nous ferons tomber Paris avant Rome ». Et ils le feront par... Alors, je ne sais pas, naturellement, on peut penser qu'ils bluffent, je l'espère, mais...
Importe, d'ailleurs, hein, mais... Ça tomber Paris ou
non, mais autant c'est... quand même écouter également alors, ce qu'ils nous disent. Non,
parce Olivier Mazerolle, et puis après on parlera de la Libye, mais évidemment, mais après la publicité.
Déjà, globalement, ce qui me paraît quand même...
Il
faut essayer de classer tout ça. D'abord, il y a effectivement, quand Bernard Kouchner dit que l'Europe est restée indifférente et a été coupable d'indifférence, c'est exact. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut accueillir tout le monde, et n'importe comment. Ça veut dire qu'on ne s'est pas occupé du sujet. de façon précise. Et ce sujet-là, il y a plus d'un an qu'on aurait dû commencer à s'y atteler. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est un niveau, les Européens. Quand on dit l'Europe, d'ailleurs, c'est les Européens. Moi, je suis frappé hier d'entendre que dans l'émission de François Hollande, il a été question de ce sujet 1 minute 30 sur 2 heures d'émission. Alors que c'est un des sujets fondamentaux, parce que même si effectivement il ne faut pas cultiver les fantasmes, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des fantasmes qui existent en France et que si on ne les traite pas, eh bien, on va aller à la catastrophe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est qu'il y a énormément de sujets qui sont en cause, qui sont à régler, à solutionner, et c'est pas simple, parce que effectivement, aider ces pays au développement avec un marché commun euro-méditerranéen, mille fois d'accord, mais déjà le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas. Donc comment va-t-on faire ? Ça, c'est le premier point. Comment va-t-on aider à développer la Somalie et l'Érythrée ? Hein ? Bon, par exemple, ça, c'est quand même des sujets très important, mais c'est pas parce que c'est difficile, ou pour paraphraser François Hollande qui disait dans sa conférence de presse, je sais plus quand d'ailleurs, c'est pas facile, mais justement, raison de plus, parce que cette tragédie-là, un, elle nous renvoie aux tragédies du passé, qu'on commémore en permanence, mais on pleure sur le passé, mais on est incapable de traiter le présent, donc merci beaucoup quand même, que ça ne recommence pas ces tragédies-là. Deuxièmement, parce que c'est difficile, eh bien ça veut dire qu'il faut s'y atteler. Alors on apprend qu'il va y avoir un sommet européen cette semaine.
On y revient dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
19h31 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Annie Lemoine, Yvan Rioufol, Olivier Mazerolle et Joseph Massescaron. On reprend notre débat donc sur ces drames en Méditerranée. Alors, faut-il intervenir militairement en Libye, Joseph Massescaron ?
Ben, c'est la vraie question. C'est la question qu'il faut poser. Pardon de revenir à chaque fois en Italie, mais parce que c'est eux qui sont en première ligne, hein, après tout. C'est pas nous. Et donc, y a un débat en Italie, notamment, qui a été lancé par la grande prêtresse de Forza Italia, qui est maintenant la patronne, et qui propose de, comme ça avait été fait jadis, comme les Italiens l'avaient fait jadis pour l'Albanie, c'est-à-dire de bombarder en Libye, les embarcations susceptibles, en effet, de voilà ce qui serait. Et elle considère que c'est un acte de guerre certainement, mais que aujourd'hui c'est une forme de guerre qui est menée, en tout cas, contre
les embarcations vides.
Oui, bien sûr, évidemment, les embarcations vides.
C'est
voilà.
Bien précisé.
En Albanie, elles avaient été bombardées vides aussi. Oui. Hein. C'est-à-dire toute la flottille de passeurs. Nous, sur l'Albanie, c'est-à-dire que, sur la Libye. Moi, ce qui me frappe, c'est que d'un côté, vous entendez Kouchner ou autre, et on est un peu dans le sanglot de l'homme blanc, hein, ce principe, ce livre. Et quand vous lui dites, quand vous avez envie de lui dire, mais enfin, lorsqu'on a fait la connerie d'intervenir en Libye, vous étiez où ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Parce que c'était évident que ça allait se passer comme ça. C'était évident, d'accord ?
Pourquoi
les mêmes d'ailleurs, et les mêmes.
Pourquoi la connerie ? Parce qu'un bon dictateur qui tient le pays, on est tranquille ?
Non mais pourquoi le pays ? Parce que je vais vous dire une chose, on n'intervient jamais.
Il n'y a pas eu de service après-vente entre guillemets. Voilà le problème.
Il y a un principe d'ailleurs que Jean-Pierre Chevènement a très bien compris. On n'intervient jamais dans un pays quand on n'a pas le projet politique qu'on doit installer après.
Exact. Et ça, donc c'est l'après qui n'a pas été géré.
Et ça, on l'avait prêt. Mais ce n'est jamais géré. Ça n'a jamais été géré en Irak. Mmh. Et pour les gribouilles qui vont intervenir en Syrie, puisqu'on va parler peut-être d'Assad,
si on a le temps.
C'est exactement la même chose.
Oui, la Libye, effectivement, intervenir militairement en Libye, mais qui ? Les Italiens ne sont pas très bien placés. Ils ont été les colonisateurs de ce pays. Donc le retour de l'armée italienne en Libye ou de... Bon, est quand même compliqué à envisager. La France, elle est déjà très occupée ailleurs. La Grande-Bretagne, peut-être. Les Américains, peut-être. Mais vous voyez, les pays, en fait, ces expéditions militaires ne sont réellement efficaces que si elles sont accompagnées d'une volonté politique de la région. Et que les pays de la région participent. L'Égypte est sans doute prête à participer. Les Tunisiens, les pauvres malheureux, ils ont déjà du mal à faire la police chez eux. Comment voulez-vous qu'ils envoient des militaires en Libye ? Les Algériens...
Nous avons créé le bordel et ensuite après, c'est aux Égyptiens de gérer.
Attendez, d'abord, les Algériens sont concernés de la même façon par le risque terroriste et l'extension islamiste au Maghreb, dans la zone subsaharienne, et y compris chez eux. Par conséquent, ils sont intéressés à la question. D'ailleurs, ils ne se privent pas de coopérer avec nous à l'intérieur de leurs frontières, ou en tout cas à la limite de leurs frontières, en surveillant justement leurs frontières pour éviter que les islamistes et les djihadistes aient des bases arrières en Algérie. Par conséquent, ils sont concernés de la même façon. Nous avons foutu le bordel, merci beaucoup, mais si nous n'étions pas allés en Libye, à Benghazi, ça aurait été un bain de sang. Par conséquent, effectivement, nous n'avons pas géré la
suite.
Effectivement, nous n'avons pas géré la suite. Eh bien alors, d'accord, mais votre propos, effectivement, comme le disait Annie tout à l'heure, ça consiste à dire qu'il faut maintenir les dictateurs en place.
Le propos de Joseph,
il s'agit de pas faire la politique de
Il va là-dessus.
Est-ce facile de dire qu'il faut intervenir en Libye, mais qui va y aller? Comment?
On ne peut pas, comme vous le faites, Joseph, dire qu'il ne fallait pas intervenir en Libye. Ce que je conteste, parce qu'il y avait effectivement, je suis d'accord avec Olivier Mazerolle, il y avait un bain de sang à éviter, et en même temps, prônez aujourd'hui d'intervenir précisément en Libye. Donc il y a là quelque chose que je ne comprends pas.
Bah, si on intervient une fois,
il y a un illogisme.
Juste,
que vous le vouliez ou non, vous vous mettez également dans ces mêmes pièges-là. Je pense que la solution, a priori, me semble être au contraire des solutions juridiques, c'est-à-dire d'autoriser effectivement la justice européenne à faire en sorte qu'on puisse raccompagner ces bateaux de là où ils partent. Ça me paraît quand même pas très compliqué et moins dangereux que de bombarder.
Mais on ne peut pas
parce qu'on n'a pas le droit, parce qu'il y a la législation interdit. Donc la législation se change.
Tous les migrants qui sont sur ces bateaux, on les renvoie tous. Il n'y a pas de droit d'asile, il n'y a pas rien de tout ça.
Les droits d'asile peuvent se faire sur place ou d'une autre manière, mais pas de droit d'asile en effet. On dit ça autour d'une table, c'est assez facile. Je pense qu'on ne peut pas, effectivement, il faut cesser que ces flux arrivent et qu'ensuite on renvoie, en fait on ne renvoie pas, 1% simplement sont renvoyés chez eux, ces gens qui n'auront pas eu le droit d'asile. La majorité d'entre eux, c'est dit, sont des réfugiés économiques, mais surtout, ce qu'il faut changer, c'est notre doctrine politique, et singulièrement la doctrine politique de l'Union européenne, qui est de celle qui continue à dire, à travers ses commissaires européens, que l'immigration est une chance pour la France, ça a été redit une fois de plus. Et donc, c'est encore une fois, c'est l'Union européenne elle-même qui alimente, par cette bonimenterie, par cet angélisme surjoué, qui alimente ce lent naufrage qui se passe sous nos yeux en Méditerranée. Donc, il faut cesser de jouer aux ahuris et il faut, en effet, être davantage sévère vis-à-vis de ceux qui, en tout cas, provoque ces départs.
Allez, on change de sujet. On va parler de François Hollande qui était hier sur Canal+.
RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
Et à 19h39 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Joseph Massescaron, Annie Lemoine, Yvan Youfol et Olivier Mazerolle. Un mug posé devant lui, décor innovant pour une interview présidentielle. Hier, François Hollande était donc l'invité de Canal+ et de son émission Le Supplément, suivi par 1 800 000 téléspectateurs. On retiendra parmi de nombreuses phrases Madame Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Ça n'a pas plu à Pierre Laurent. Globalement, le président, vous l'avez trouvé comment? Convaincant sur les réseaux sociaux, Benoît?
Bien sur le fond de la vie générale, pas grand-chose. 2 heures pour justifier 3 ans d'échec, tac les plaies. Les Français veulent plus de résultats et moins de télé, résume l'UMP Roger Carucci. Sur la forme, en revanche, on s'est posé beaucoup de questions. 2 heures d'infotainment devant un public jeune bobo geek, alors que les Français attendaient des réponses sur l'emploi, sur la croissance. Indigne Rémi Godot du site L'Opinion. Des blagounettes, une chansonnette, un clip du service comme des armées, une interview guimauve et un exercice laborieux du président face à des lycéens, énumère Michel Urvoy dans Ouest France. Florence Chiedotal de la Montagne dénonçait une parole présidentielle gaspillée, décrédibilisée. Il paraît que c'était en clair sur Canal+, mais j'ai rien compris quand même, ricane Romain. François Hollande a répété qu'il était déterminé, génial, mais déterminé à quoi, demande JP. Dounia a quand même trouvé appréciable qu'il débatte avec les jeunes, arrêtez de voir le mal partout, voyons, dit-elle. Si vous avez trouvé Hollande mauvais, arrêtez de dire que la com' d'Obama est bonne. Il fait exactement le même genre d'émission, c'est une moutinerie. Pour la prochaine interview de notre président, conclut Phil, je prévois Énergie 12 entre les anges de la télé-réalité et un épisode de Stargate.
Annie Lemoine, vous qui avez grandi à Canal+, donc...
Je peux vous dire une chose, j'aurais aimé y être. J'étais jalouse.
François Hollande était chez vous hier.
Ouais. Et en quelque sorte, bah, écoutez, ça fait en tout cas rentrer dans la préhistoire, si ce n'est dans l'histoire, l'exercice de l'interview présidentielle qui était convoitée par tous les présentateurs classiques, on va dire, du 20h. C'est une opération de com', une opération réfléchie. On s'adresse aux jeunes et donc on dégaine les mesures ad hoc. Alors peut-être qu'ils ne sont pas allés assez loin. Peut-être qu'il aurait fallu mettre un t-shirt à Hollande avec écrit dessus « Je suis président ». Voilà.
Excusez-moi, on aurait davantage parlé. C'est nouveau ce qui a été fait là?
D'aller dans une information de divertissement comme ça, sur Canal.
Ah bon?
Oui, bah,
vous vous rappelez pas un certain François Mitterrand ou un certain Yves Mourouzi avait posé le bout de sa fesse?
C'est exactement le même principe. C'était un présentateur.
C'est exactement le même principe.
C'est pas parce qu'il avait posé une fesse, d'ailleurs, c'était Guillaume Durand.
C'est exactement le même principe. Et c'est exactement ce que c'est. Et c'est exactement ce qui était en train d'être préparé.
C'est-à-dire, c'est de la tontomania. Pas du tout d'accord.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il en reste ? C'est ça la seule question. Bon, stratégie, communication. Qu'est-ce qu'il en reste ? Bah, aujourd'hui, pas grand-chose. Parce que malédiction de l'actu. D'ailleurs, il joue de malchance. C'est pas la première fois. Voilà que l'actualité a balayé le Land à Canal+ parce qu'il y avait le naufrage en Méditerranée.
Donc, pour résumer,
c'est pas l'opération du siècle. Et en même temps, ça lui ressemble assez, c'est-à-dire patiemment, pierre à pierre après pierre, je balaye mon chemin présidentiel sans me déclarer officiellement candidat à ma succession, mais j'en crève d'envie.
Ouais. Alors, sur l'interview plan-plan, on dit non. Moi, je trouve que l'interview était bien menée. Ce que je déplore encore une fois, c'est qu'on ne s'arrête pas sur un sujet qui est venu s'imposer comme si il était désagréable d'avoir la structure d'une émission être désorganisée par le fait qu'il y ait des morts en Méditerranée. Voilà, donc les morts sont venus déranger.
Ça arrivait trop tard.
Ça, c'est dommage. En revanche, je trouve qu'on est sévère par ailleurs. Parce que tout de même, dans cette ambiance finalement plutôt sympathique, François Hollande a dit ce qu'il pense sur le Parti communiste. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans le fond, il a dit quoi ? Il a dit quelque chose qu'on écrit tous, hein, que le programme économique du Front National est celui de la gauche de la gauche.
Bon, il a dit des années 70, ouais, je vous rappelle.
Mais c'est pareil, ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Ça n'a pas changé. Bien. Ensuite, il a eu quand même la gentillesse de rappeler que le Parti communiste ne voulait pas mettre à la porte les étrangers, ce qui est fou d'ailleurs, parce que pendant un bon moment, il voulait les mettre dehors. Ah. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où il n'a plus voulu les mettre dehors qu'il a perdu son crédit et qu'il
1980,
a perdu des voix. Voilà. Mais là, il a dit ce qu'il pensait, et moi je trouve ça extraordinaire, parce que François Hollande, qui est quand même extrêmement précautionneux, au moment précis où il se dit, quand même pour 2017, il faut que je réunisse la gauche, etc., le voilà qui tombe dans le piège de, finalement, la sincérité. C'est quand même extraordinaire.
Donc opération réussie pour Maïtena Birabane et les équipes du supplément qui ont réussi à faire tomber le masque, Joseph Massescaron.
Ah ouais, super. Excusez-moi, je ris là. Non mais je ris parce que c'est une opération qui est... Non mais attendez, comment peut-on croire ? Bon... C'est une opération, on parle aux jeunes et on branchouille. D'ailleurs, il y a eu un papier dans Le Monde, absolument excellent, d'un confrère.
Mais pourquoi pas ?
Oui, bien sûr. Simplement, quand on ne parle pas aux Français, généralement, on ne prend pas la peine de parler aux Français, on ne se précipite pas pour parler d'abord aux branchouilles. Alors peut-être que les branchouilles vous préférez, très franchement, il y a peut-être d'autres solutions. Il y a peut-être d'autres solutions. Parce que ça rentre dans une stratégie. Parce que ça rentre dans une stratégie présidentielle.
La dernière fois, c'était sur TF1 et RTL. Pourquoi pas cette fois-ci ?
Parce que ça rentre tout à fait dans une stratégie présidentielle. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si François Hollande a fait un entretien dans Society et qui magazine branchouille, si on veut. Voilà. Et ensuite, après, c'est-à-dire qu'ils font exactement, parce qu'ils n'ont aucune imagination, ils font exactement la même chose. Ils ont regardé la campagne de François Mitterrand de 87 à 88 et ils font exactement la même chose que lui. C'est-à-dire, on parle d'abord aux jeunes, on parle d'abord aux branchouilles et puis on fait une certaine forme de tontomania. Parce que alors, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, hein, parce qu'on appelait ça tonton, parce qu'à l'Élysée, on disait tonton pour François Mitterrand. Alors peut-être que là, on va dire pépère-mania, puisqu'on appelle pépère, n'est-ce pas, à l'Élysée. C'est moins porteur, ça c'est vrai. Mais je ne crois pas que c'est une entreprise de com, en fait, comme, très franchement, une entreprise comme les autres. Et simplement sur l'aspect du PC, je vais me permettre d'être taquin, parce que le PC dans les années 70, peut-être qu'il était proche, qu'il partageait un certain nombre de choses de Front National, c'est ce qu'on croit François Hollande, sur le plan économique. Mais, curieusement, sur le plan économique, je me souviens aussi qu'un certain parti socialiste signait un programme commun en 72, avec le PC.
Il
signait avec les thèses économiques du Front National.
En 1980, pour compléter, Georges Marchais signait une lettre dans l'Humanité disant qu'il était absolument hostile à toute immigration clandestine, régulière ou irrégulière. Donc, il allait encore beaucoup plus loin que Marine Le Pen. Moi, j'ai trouvé que cette prestation relevait vraiment d'une propagande d'État et ça me fait vraiment penser que plus un homme politique n'a rien à dire, plus il doit se montrer. Parce qu'il faut quand même rappeler le contexte de ces deux heures d'interview, d'ailleurs assez bien amené, je trouve, par Maïtena Birabane, qui était assez assez bonne dans cette histoire-là. Mais auparavant, nous avons eu Manuel Valls chez Franz-Olivier Gisbert, qui était d'ailleurs avec un truc assez gentil, qui m'étonnait un peu de la part de Fogg, que j'ai connu quand même plus vivace sur ces points-là. On a eu Valls également chez Denisot. On a eu Hérault, interviewé par sa fille. Enfin, on s'est tapé quand même cette dernière semaine tout un ensemble de propagande d'État que ne renierait pas
propagande
Poutine.
D'État,
de propagande d'État que ne renierait pas Poutine. Bah, excusez-moi, mais enfin, moi j'ai avalé du Valls et du Hollande pendant 2 heures et plus, et je trouve ça déjà suspect, d'autant qu'en effet, Hollande n'a rien dit. Du moins, s'il n'a rien dit, il n'a juste...
Sauf sur le PC.
Non, je n'ai retenu qu'une chose, et d'ailleurs avec un clientélisme sans vergogne, en se déplaçant vers cet électorat qu'il voulait flatter en venant à Canal+, c'est-à-dire ceux des moins de 25 ans, en leur proposant encore une enveloppe supplémentaire pour ceux qui travaillaient, donc dépensant 1 milliard de plus alors qu'on nous dit qu'il faut faire des économies. Mais tout le monde trouve ça normal, et personne ne hurle à la démagogie patente, de mon point de vue, de ce président qui n'arrivant pas à convaincre la jeunesse, lui fait des chèques.
Eh bien,
moi, je trouve ça absolument insensé.
C'est curieux qu'Yvon n'ait pas relevé la saisine du Conseil constitutionnel.
Oui, parce que
ça, c'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est-à-dire, c'est un moment qui permet de tuer Valls. C'est un moment qui permet de tuer Valls. Et puis, c'est quand même extraordinaire que le président de la République se dise, finalement, vite, mais cette loi, je ne la connais pas.
Ça montre à quel point
j'ai noté
ce qu'il a dit sur le PC. Et
il y a encore une grande désinvolture, mais je termine un peu parce que
s'il vous plaît, parce que là, on va passer.
Il y a une grande désinvolture également sur la question qui lui a été posée sur l'identité de la France. Il n'a pas répondu sur l'identité de la France, simplement en disant que la France était simplement une idée, c'est-à-dire rien du tout pour lui, et qu'il n'aimait pas la France de la nostalgie. Ben, je suis désolé, mais la France est aussi une nostalgie, c'est aussi des mémoires, c'est aussi un souvenir. Et je vois que tous ces sujets-là, qui, moi, sont des sujets que j'estime être centraux dans les débats actuels, sont des sujets qu'il évacue avec une rapidité concernante.
Juste quelque chose qu'on peut lire de manière subliminale ou au second degré, c'est une dépêche de l'AFP intitulée PCF, immigration, naufrage.
Allez, à suivre. Bachar al-Assad, ce soir aux 20h de France 2, on en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
On refait le monde à 19h51 sur RTL avec Joseph Massescaron, Annie Lemoine, Yvan Youfol, Olivier Mazerolles. 4 ans de guerre, 200 000 victimes, des millions de déplacés et un président qui, ce soir, sera sur France 2. Bachar al-Assad, le président syrien, qui répondra aux questions de David Pujadas sur France 2. Et la polémique monte. Peut-on interviewer un dictateur? Alors, Annie Lemoine, vous seriez tout à l'heure, vous enviez Maïté Nabiraben à Canal+. Est-ce que vous enviez David Pujadas ce soir?
Je ne l'envie pas, mais imaginez le présentateur des 20h qui sont obligés d'aller interviewer des présidents à l'étranger, enfin des dictateurs, parce qu'ils ne peuvent plus interviewer le président chez eux. C'est une blague, pardon. Je crois qu'il faut faire confiance aux bons journalistes, il en est un, et aussi à la chaîne, à France 2. Point de départ, quand même, rappeler que Bachar el-Assad, c'est vrai, vous l'avez fait, est un criminel, auteur de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il est aussi en perte de vitesse, évidemment, Daesh et Djihad qui grignotent le territoire, qui le morcellent. Donc, opération de réhabilitation, bien menée. Il choisit ses interlocuteurs, évidemment, qu'ils soient américains, anglais, même français. Donc voilà, c'est une opération de com, point barre.
Mais donc, vous faites confiance à David Pujadas, il faut y aller.
Oui, il faut y aller. Et le métier, c'est de montrer l'interview, bien sûr, et de la décoder, de la mettre en perspective, en rapport, et donc d'informer l'opinion publique, les Français, de ce qui se passe là-bas. Oui, bien sûr qu'il faut y aller. Moi, j'ai quand même, en une fraction de seconde, fait le parallèle avec Hitler, parce que ça me parlait immédiatement. Alors quoi, je serais allé voir Hitler, je lui ai dit « Alors, il paraît que vous exterminez des Juifs dans vos camps ?» Je vous laisse deviner la réponse.
D'Hitler ? Il aurait assumé.
Je vous la laisse deviner.
Il y a une différence fondamentale, c'est que Hitler, lui, avait écrit un livre dans lequel il expliquait ce qu'il allait faire. Par conséquent, il n'aurait pas forcément nié ou en tout cas.
L'époque est différente, on ne peut pas comparer.
Non, mais bien sûr, on ne peut pas. Non, on peut pas.
Bachar a bombardé sa population.
Je ne dis pas ça pour dire qu'il ne fallait pas interviewer Bachar al-Assad. Effectivement, David Pujadas est un excellent journaliste. Je suis persuadé qu'il a préparé très très sérieusement. D'ailleurs, on voit un extrait déjà où il montre des photos très gênantes pour Bachar al-Assad qui finit par dire « Non, mais notre armée ne fait pas ça. » « Ah bon, vous voulez dire que les photos sont truquées ?»« Non, je ne dis pas ça, il faut enquêter. » Bon, déjà, il recule un peu sur... Mais il ne faut pas oublier non plus que toutes les bonnes âmes là, qu'on entend qui nous disent « Mais comment aller interviewer un dictateur ?» Mais les puissances du monde entier se sont accommodées de ce régime pendant 30 ans, avec le père d'abord et le fils ensuite. Alors aujourd'hui, on nous dit, ah ben non, mais oui, on parlait de Gaddafi tout à l'heure. C'est toujours pareil. Quand on veut sortir un dictateur, il faut essayer de savoir combien de salopards se lèvent à sa place. Voilà. Et là, on n'a pas saisi l'occasion. Il y avait une rébellion démocratique en Syrie. On n'a pas saisi l'occasion pour l'aider réellement. Aujourd'hui, eh ben, on est le dos au mur parce qu'on ne sait plus quoi faire avec Bachar al-Assad.
Yvan Yeffol, vous serez devant France 2 tout à l'heure à 20h ?
Non, en l'occurrence, non. Mais sinon, j'aurais été bien volontiers, parce que j'aime beaucoup, effectivement, la manière qu'a Pujadas de mener les interviews. J'imagine qu'il ne va pas servir la soupe, bien sûr. Je rappelle tout de même qui est Bachar el-Assad. C'est certes un criminel, mais c'est aussi maintenant celui qui est en première ligne pour combattre l'État islamique. Et c'est celui également qui protège notamment les minorités, et singulièrement les chrétiens d'Orient. Donc il ne faudrait pas non plus perdre ça de vue, car quand nous sommes alliés avec l'opposition soi-disant démocratique, on s'est vite aperçu que cette opposition soi-disant démocratique s'était laissée subvertir précisément par ceux qui aujourd'hui ont rejoint l'État islamique. Donc le type
n'était pas soi-disant démocratique, elle était faible, c'est différent.
Elle s'est laissée, en tout cas par sa faiblesse, elle s'est laissée subvertir par l'État démocratique. Et donc c'est devenu ce réseau que l'on connaît. Et donc il faut faire preuve de pragmatisme, de réalisme, et je préfère naturellement que l'on parle avec ce type-là, d'autant que je vois assez mal la diplomatie française donner des leçons. Elle en avait fait de même, d'ailleurs, quand les quatre parlementaires étaient venus le rencontrer il y a deux mois de cela, et ils avaient été traités de zozo, je crois, par Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Je pense que c'est aller bien vite en besogne, d'autant que j'aimerais que la diplomatie française prenne autant de recul vis-à-vis du Qatar ou d'autres pays qui, eux, financent très directement ou indirectement l'État islamique.
Merci Yvan Yeffol, Joseph Massescaron. Vous attendez quoi de l'interview de tout à l'heure ?
Je vais la regarder parce que c'est un moment essentiel. Parce que c'était aussi un moment, je trouve que c'est un très beau coup de la part de France 2, je le dis franchement, d'avoir réussi à décrocher cet entretien. Parce que, contrairement à ce que prétend la diplomatie française, Laurent Fabius, mais aussi à droite, en effet, Nicolas Sarkozy ou autre, de toute manière, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous serons obligés en France de reprendre langue avec Assad. Mmh. Voilà, de toute manière.
Sur les réseaux sociaux, on en dit quoi, Benoît ?
Ça dépend des conditions de l'interview, mais c'est plutôt non. Pour les internautes, j'ai envie de vomir, écrit Youssef. Je vois pas l'intérêt d'écouter un dictateur sanguinaire et arrogant. Triste spectacle que je regarderai pas, prévient Béa. Comment l'Élysée accepte qu'une chaîne publique fasse la com' d'un criminel comme Assad ? Dine Rima. Il n'a pas essayé de connaître les questions de mon interview, insiste David Pujadas sur le site de 20 minutes. Bon allez, reste à voir comment David Pujadas se comportera ce soir avec le président, écrit Sylvia, qui veut laisser le bénéfice du doute. Quand bien même les questions seraient pugnaces et confrontantes, que vous attendez-vous sérieusement à recevoir comme réponse digne de ce nom ? Quel intérêt journalistique peut avoir une telle entrevue quand chacun peut écrire à l'avance les réponses ? Rétorque Marie pour finir.
Oui, c'est bien facile ça.
Ça c'est le propre de toute interview présidentielle, non ? Les questions et les réponses connues.
Pas toujours. Non, parce qu'en l'occurrence, ses réponses sont sans doute intéressantes. D'ailleurs, on apprend
la manière dont il va répondre.
Oui, et on apprend, par exemple, qu'il y a des contacts avec les services secrets français. Ce sont des contacts qui sont non élaborés, mais enfin, bon, c'est quand même intéressant de savoir qu'on se parle.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Olivier Mazerolle, Yvan Yeffol, Annie Lemoine et Joseph Massescaron.